RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Fabrice, bonjour.
Jean-Michel, bonjour.
Nous allons nous intéresser aujourd'hui à quelque chose qui fascine l'humanité. C'est la religion, l'histoire des religions monothéistes.
Eh oui, on a la chance d'être aujourd'hui avec Katel Berthelot, historienne des religions. Elle est directrice de recherche au CNRS du côté d'Aix-en-Provence. Alors c'est une invitée particulière, elle a reçu de nombreux prix, figurez-vous, mais surtout la médaille de bronze du CNRS en 2007, une vraie distinction dans sa matière. Et puis le prix Irène Joliot-Curie de jeune femme scientifique de l'année, c'était en 2008. Une invitée qui a beaucoup travaillé autour des manuscrits de la Mère Morte et sur la pensée juive d'époque hellénistique et romaine. Nous, on va l'écouter sur la grande histoire des monothéismes.
Katel Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Katel.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a trois grandes religions monothéistes, hein, le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Oui.
Comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que ça a commencé à partir d'un événement politique particulier, d'un événement majeur, ou c'est arrivé comme ça au fil de l'histoire?
Alors c'est plutôt un développement progressif, hein. On parle souvent, avant même de parler de monothéisme en contexte juif, hein, dans le contexte de la Bible hébraïque, on parle souvent de l'épisode du pharaon Akhenaton, hein,
oui.
Au 14e siècle avant notre ère. Alors là, effectivement, c'est un épisode très unique et en partie politique. C'est vraiment la personnalité de ce pharaon-là qui a voulu abandonner le culte d'Amon et a cherché à imposer un culte exclusif.
Qui a changé de nom d'ailleurs pour l'occasion. Hein.
Voilà, le disque solaire s'appelait Aton et donc il s'appelait Amenhotep IV et il prend le nom d'Akhenaton. Mais bon, ça, c'est un épisode un peu mystérieux et puis qui reste sans lendemain. Voilà, à sa mort, on revient au culte égyptien traditionnel, polythéiste. Par contre, ce qu'on voit dans la Bible hébraïque, là, on voit un développement progressif. Au départ, on peut dire que le peuple d'Israël est plutôt monolâtre, hein. C'est un mot employé par les spécialistes, ça veut dire qu'il y a un culte exclusif d'un seul dieu. Mais en même temps, les Israélites ne nient pas l'existence des dieux des autres peuples. Donc eux, ils n'ont qu'un seul dieu, mais les autres ont des dieux, d'autres dieux. Donc on n'est pas encore vraiment dans le monothéisme. Et c'est progressivement que l'idée monothéiste va émerger dans l'Israël ancien. Et les spécialistes considèrent que ça se passe entre le 6e siècle avant notre ère et le 5e, 4e avant notre ère, c'est-à-dire l'époque babylonienne et perse.
Freud a soutenu que ce culte d'Aton était à l'origine du judaïsme, ce que certains historiens contestent.
Ah oui, non, ça tient pas la route, cette hypothèse de Freud, effectivement. Les contextes sont totalement différents, les périodes sont totalement différentes. Il n'y a pas de transmission forte de l'idée monothéiste depuis le 14e siècle, contexte égyptien, jusqu'au 6e, 5e siècle avant, en contexte israélite. Donc ce sont vraiment deux développements distincts, en fait.
Katel, vous disiez qu'on allait passer à un monothéisme à un moment donné, vous avez situé l'époque. Est-ce que ça va se faire d'un coup avec une vraie décision politique puis sociale, avec un livre, avec des écrits, ou ça va être très progressif, ça va mettre du temps, ça va infuser? Comment ça se passe, cette arrivée vers un dieu unique?
Ah non, ça prend beaucoup de temps et en fait il faut pas imaginer qu'il y a un pouvoir central capable d'imposer comme ça une idée nouvelle à toute une population. En fait, à partir de l'exil des élites du royaume de Juda à Babylone, donc après la destruction du premier temple de Jérusalem, hein, en 586 avant notre ère. Donc ces élites vont être confrontées au monde babylonien, et puis ça va être une grosse remise en question, en fait, sur le plan théologique. Où est le Dieu d'Israël? Pourquoi a-t-il permis la défaite, la destruction de son temple, l'exil? Et du coup, de deux choses l'une. Soit on pense que les dieux babyloniens sont plus forts que le dieu d'Israël, et dans ce cas-là, on se rallie à la religion des babyloniens, soit on fait un saut conceptuel, et là on imagine un dieu qui en fait, qui est le dieu universel, qui tient le cours de l'histoire entre ses mains, et qui se sert finalement des babyloniens comme d'un instrument pour punir son peuple qui avait péché, qui avait fauté, qui s'était écarté de lui, etc. Ça va être, disons, le discours du livre du Deutéronome, en particulier dans la Bible. Et c'est ce discours-là qui va permettre de faire sens de cet épisode traumatique qu'est l'exil à Babylone. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que, voilà, du jour au lendemain, on passe au monothéisme, etc. C'est une idée qui va, disons, commencer à cheminer et qui va petit à petit s'imposer parmi la classe sacerdotale, hein, de la Judée, puisqu'après on va parler non plus du royaume de Juda, mais de la Judée, il n'y a plus de roi, il n'y a plus que des prêtres, et dans ces milieux de prêtres, de scribes, on va effectivement voir émerger dans certains textes une idée monothéiste claire. Alors, dans ce fameux livre du Deutéronome, qui affirme fortement que voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, dont le nom est parfois transcrit en français par Yahvé, en fait c'est quatre consonnes, Yud, He, Vav, He. Donc ce Dieu-là, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est une affirmation tout à fait nouvelle. Hein. On nie complètement l'existence des dieux des autres. Et puis, on va trouver ça aussi dans le livre du prophète Isaïe, avec une affirmation très forte aussi, en fait, en réaction à la religion des Perses, qui était en partie, en tout cas, considérée par certains comme monothéiste, le culte d'Ahura Mazda, le dieu de la lumière, mais qui était en même temps assez dualiste, parce que face à Ahura Mazda, le dieu de la lumière, il y avait aussi un dieu du mal, Ahriman, un dieu des ténèbres. Et très, de manière très intéressante, dans le livre d'Isaïe, on va trouver un verset qui dit que le dieu d'Israël, lui, il a créé à la fois la lumière et les ténèbres, le mal et le bien. Donc en fait, là, on voit qu'ils prennent position aussi par rapport à la culture de l'Empire perse, et eux, ils disent que leur dieu, c'est vraiment le dieu unique et qui a créé toute chose.
Et est-ce que ça va se faire dans, est-ce que ça va se faire dans le conflit, ce passage d'un polythéisme, je dirais, au monothéisme, déjà à l'époque, comme on voit aujourd'hui que les religions sont en conflit, ou est-ce que ça va être assez pacifique, finalement, chacun va aller vers ce qu'il croit ?
Alors, il faut imaginer que les Judéens, à l'époque, hein, donc le peuple d'Israël, qui est en Judée, ou bien dans leur diaspora, puisqu'il y a déjà à ce moment-là une diaspora, donc en Babylonie, etc., eh bien, c'est une petite minorité dans l'Empire perse. C'est un petit groupe sans pouvoir, en fait. Donc là, il n'y a pas vraiment de violence, à part, disons, au sein de la société judéenne, qui est vraiment, on vous dit, un petit groupe humain, hein, qui ne représente pas une population très importante. Il y a certainement eu des tensions, hein, entre les partisans de l'ancienne version de la religion israélite et les partisans de la nouvelle. On a quelques échos indirects dans les livres d'Esdras Néhémie, datés de l'époque perse, hein, mais on a du mal en fait à savoir exactement s'il y a eu des résistances. En tout cas, à ce stade, on ne parle pas du tout d'imposition d'idées monothéistes à des populations non juives. Hein. Ça reste vraiment au sein de la société judéenne. Voilà.
En fait, en vous écoutant avec beaucoup d'attention, on a l'impression que la création d'une religion monothéiste vient en réaction à autre chose.
Oui, il y a dans le monothéisme un aspect de réaction. Et il y a un aspect de réponse théologique aussi, c'est-à-dire concevoir Dieu autrement pour face à, disons, à des événements historiques qui sont extrêmement déstabilisants et qui remettent en question des conceptions traditionnelles de Dieu.
Donc à la limite, on pourrait considérer, entre guillemets, que c'est toujours politique au départ, puisque oui, la guerre est une chose politique, les conflits sont politiques.
Oui, c'est-à-dire, en fait, là, on touche du doigt une réalité très importante du monde antique, qui est que le politique et le religieux ne sont pas séparés. Hein, on ne fait jamais une guerre sans invoquer ses dieux. Il y a toujours une dimension religieuse.
Ce n'est pas uniquement le monde antique, parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, on peut considérer que certaines religions se sont beaucoup politisées en faisant des actions guerrières, entre guillemets. On en réfère toujours à son dieu.
Oui, tout à fait. C'est vrai que même aujourd'hui...
Ça s'est passé pour les croisades aussi avec les chrétiens.
Oui, et puis je vous rappelle qu'aux États-Unis, quand le président entre en fonction, il jure sur la Bible. Hein.
Donc, oui, voilà, in God we trust.
Ben voilà, in God we trust. Donc la séparation du politique et du religieux, évidemment, est une chose totalement relative, même dans le contexte de nos sociétés sécularisées du XXIe siècle. Mais disons, dans le monde antique, ça ne fait... Enfin voilà, là pour le coup, il n'y a pas de doute possible. C'est vraiment massif et dans toutes les cultures. C'est-à-dire, ce n'est pas le propre d'une civilisation par rapport à une autre. Le religieux est tout simplement omniprésent, hein. C'est vrai, ça, les dieux sont là et les hommes doivent tout le temps, négocier la relation avec les dieux, que ce soit dans la guerre ou dans la paix, hein, c'est dans toutes sortes de contextes de vie.
Alors, toutes les religions naissantes ont été persécutées ?
Non, pas forcément, mais bon, c'est plutôt le fait d'être minoritaire qui vous expose à la persécution. Pas forcément toutes les religions naissantes. Par exemple, on ne peut pas dire cela vraiment de l'islam. Hein. Est-ce que l'islam... Bon, bien sûr, Mohammed se heurte à des oppositions. hein, qui sont dirigés vraiment contre sa personne et son petit groupe de, d'adeptes. Mais enfin, très rapidement, c'est une religion qui s'impose. Enfin, il n'y a pas véritablement de phase de persécution comme il y en a eu pour le, dans l'histoire du christianisme, par exemple. Où là, pendant quand même quasiment 3 siècles, on a une religion qui n'est pas constamment persécutée, hein, loin de là, mais bon, qui, voilà, de temps en temps, affronte effectivement des épisodes de persécution.
Alors, comment glisse-t-on de cette religion judaïque au christianisme ?
Ah, ben là, c'est le rôle de la personne de Jésus. Le christianisme n'existe pas sans Jésus, en fait. C'est vraiment...
Mais il y avait quand même des chrétiens avant Jésus.
Ah non, il n'y a pas de chrétien avant Jésus. Non, par définition, le christianisme.
Oui, c'est la croix, oui, voilà. Effectivement. Mais il y avait quand même des personnes qui attendaient ce prophète, qui espéraient en cette religion, qui ne croyaient plus vraiment au judaïsme.
Ah non, c'est pas une question de ne plus croire en judaïsme. D'ailleurs, les premiers disciples de Jésus sont des juifs pratiquants.
Mais Jésus lui-même.
Et Jésus lui-même, évidemment, est juif. Donc, c'est pas du tout la question de ne plus croire au judaïsme. La vraie question que pose Paul, notamment dans ses épîtres, dans le Nouveau Testament, c'est est-ce que c'est l'observance des commandements de la loi d'Israël qui permet d'être sauvé ? C'est ça la question. Et la réponse de Paul et des premiers chrétiens va être de dire le salut, c'est la foi en Jésus-Christ et non pas l'observance des commandements. Cela dit, ça ne signifie pas que dans l'esprit de Paul, l'observance des commandements soit nécessairement négative. Voilà. Donc, je dirais, là, il faut pas se tromper de question. Après, c'est vrai qu'avant même la venue de Jésus, ce qu'on voit dans les textes juifs, c'est une attente messianique. Je pense que c'est plutôt à ça que vous aviez en tête. Il y a une attente messianique, il y a une attente d'une figure comme ça, plutôt royale en fait. Là aussi, c'est une figure politico-religieuse, une figure de roi, de sauveur, qui va restaurer Israël, le peuple d'Israël, dans sa terre, dans son autonomie politique, qui va apporter une paix universelle. Voilà, ça fait partie des caractéristiques du Messie. Et puis alors, sous l'occupation romaine, au 1er siècle, c'est vrai que ces attentes messianiques vont s'exacerber et qu'on va avoir des mouvements comme celui des Zélotes, par exemple, qui vont prendre les armes pour se révolter contre Rome. Et dans ce contexte, on a aussi, on sait d'après l'historien Flavius Josèphe, qui est un historien juif du 1er siècle, qu'il y a eu pas mal de figures messianiques. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont proclamées ou qui ont été proclamées par leurs adeptes comme des messies. Voilà, la figure de Jésus s'inscrit aussi dans ce contexte d'effervescence d'attente messianique dans le milieu juif en terre d'Israël.
Quoi. Mais pourquoi pour lui ça a marché s'il y a eu plusieurs candidats au poste quasiment au même siècle ?
Alors ça c'est vraiment la grande question. Pourquoi le succès du christianisme ? Et on y travaille encore aujourd'hui. Ah. Alors il y a un message qui est en fait assez décalé si on y réfléchit un peu par rapport aux attentes traditionnelles puisqu'en fait Jésus ne deviendra pas roi. Il va pas vraiment amener la paix universelle, même si les chrétiens, après, vont essayer de dire que la paix romaine, c'est quand même grâce au Christ qu'elle est venue, etc. Bon, ça, ce sont des arguments apologétiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, une des objections des juifs aux chrétiens sur la messianité de Jésus, c'est de dire, vous voyez bien le monde tel qu'il va, le monde n'est pas en paix, donc il n'a pas apporté la paix. Les chrétiens vont répondre que ça viendra avec la deuxième venue de Jésus, le retour, la parousie. Donc voilà, ainsi va le débat. Mais alors, pourquoi ce message, pourquoi cet évangile a-t-il touché effectivement autant de gens ? Alors, peut-être parce qu'il était assez profondément contre-culturel, en valorisant les pauvres, les petits, des catégories de personnes qui finalement dans le monde gréco-romain n'avaient absolument aucune importance.
Très de gauche en réalité déjà.
Oui, on peut, je pense, enfin, c'est
marxiste.
Évidemment anachronique, c'est très anachronique, mais pour faire un peu simpliste, on pourrait dire que c'est un message de gauche et un message assez révolutionnaire. Même la place des femmes dans les écrits du Nouveau Testament est souvent étonnante, très étonnante. Jésus a des disciples et des amis femmes. Paul, à un moment, parle du fait que si le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme, ce qui pose un principe de réciprocité qui va être à l'origine ensuite de la conception occidentale du mariage comme échange de consentement réciproque. Donc il y a quand même de petites révolutions culturelles en marche dans ces textes-là. Bon, ça n'empêchera pas l'Église d'étouffer certaines choses par ailleurs, notamment de renvoyer les femmes à des rôles secondaires, etc. Mais quand on lit les textes, Il y a des choses vraiment très intéressantes et où on voit que des lignes bougent et qu'il y a une valorisation de, d'un certain nombre de catégories de personnes qui ne se rencontraient pas comme telles, ni dans la tradition juive antérieure, ni dans le monde gréco-romain.
Je vous propose une petite pause musicale, puisqu'on arrive à peu près à la moitié de cette émission. On se retrouve tout de suite après et vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre, Katel Berthelot. On écoute Sourdien, Tiagran.
Tiagran di un tempo via d'incluvendo e così panda. All'alba di un tempo si ne va a campo. All'alba di un tempo. Ascolta Zidane. Vita di Puglia ci vuole a lasciarla e anda pure a ritualo. A grana di un tempo via di incluvento e così banda, la lana di un tempo si ne va a campà, la lana di un tempo.
In un valdo canta la campagna bianca bruna di una goccia e può farla paura sposta.
A grana di un tempo via di incluvento e così banda, la lana di un tempo si ne va a campà, la lana di un tempo.
Canzona chitrina lume gori e chi somiglia una storia oggi mi parte a Zappudà e posso mirare a Granada mori.
A grana di un tempo via di incluvento e così banda, all'alba di un tempo si ne va a campà, all'alba di un tempo.
Sourdien, Tiagran, Nantairti FM.
Sabienza, Jean-Michel Fradicelli, Fabrice Fenouillère.
En compagnie de Katel Berthelot, historienne des religions, directrice de recherche au CNRS. Katel Berthelot, on a évoqué le judaïsme, on a évoqué le christianisme. Il y a une troisième religion monothéisme, c'est l'islam. Et chaque fois, il y a un prophète au départ. Il y a Abraham, après il y a Jésus et ensuite nous avons Mahomet.
Oui, tout à fait,
donc,
effectivement.
Une religion pour naître a besoin d'un prophète ?
Souvent il y a une figure fondatrice. Alors, dans le cas du judaïsme, d'ailleurs, c'est pas évident que ce soit Abraham ou Moïse. Enfin, l'un et l'autre peuvent revendiquer ce titre. Et Moïse est vraiment une figure de prophète dans la Bible hébraïque. Il est vraiment décrit comme un prophète. Et il y a d'ailleurs un verset dans le Deutéronome qui annonce la venue d'un prophète comme Moïse, etc. Et ce verset sera appliqué à Jésus, par exemple. Voilà. Tandis que dans le Nouveau Testament, on annonce la venue de l'Esprit-Saint, le Paraclet. Et ce verset-là a été interprété par les premiers musulmans comme se référant au prophète Mohammed. Donc là aussi, il y a eu une transmission des attentes, mais avec des déplacements et des réinterprétations à chaque fois.
Et là aussi, c'est un événement plus ou moins politique qui a créé l'islam ?
Non, pas vraiment. Ce n'est pas.
C'est pas une guerre, ça n'est pas.
Non, l'islam n'est pas une réponse à une guerre, ou n'est pas une réponse à une crise politique en Arabie à cette époque-là. Non, là, il y a vraiment aussi la question du parcours individuel d'une personne qui considère avoir reçu un message divin à communiquer à l'humanité. Et donc là, ça passe quand même aussi par l'individu. C'est notamment dans le cas du christianisme et de l'islam, hein, c'est très net. Il y a vraiment une personne à l'origine.
Une très forte personnalité, forcément.
Mmh, tout à fait.
Ouais. Et là, chronologiquement, juste pour qu'on se remette les choses en tête, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas habitués de cette thématique, hein, de l'histoire des religions, lorsque l'islam naît, on est quasiment 1200 ans après la naissance un petit peu officielle du judaïsme, on est quasiment, voilà, 1000 ans après.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle judaïsme, ouais. Mais voilà.
Vous citiez le 6e siècle avant, par exemple, pour moins 586, pour, du côté de cette Judée, une première naissance de religion monothéiste.
Si on parle de l'émergence du monothéisme, ouais. disons au 6e siècle avant, hein, à l'époque de l'exil.
Là, on est au 6e siècle après. Ouais.
Voilà, on est au début du 7e ouais. siècle après, donc voilà, c'est ça, on a quand même bien 12 siècles d'écart.
Ouais. Et l'islam aspire des choses de ces religions précédentes ?
Ah, énormément, ouais. énormément. L'islam est vraiment très redevable à la fois à la tradition juive et à la tradition chrétienne. Il y a dans le Coran beaucoup de références à des personnages et des épisodes de la Bible, à la fois Ancien et Nouveau Testament. Il y a même des références, quasiment une citation de la Mishnah, qui est un texte du judaïsme rabbinique, postérieur à notre ère. Et donc, en fait, le Coran, la tradition musulmane, est vraiment nourrie de traditions juives et chrétiennes.
En quoi croyaient les musulmans avant Mahomet ?
Alors, ils connaissent déjà un dieu qui s'appelle Allah, mais on est dans un contexte polythéiste. Donc, il y a plusieurs divinités. Hein, dans cette Arabie anti-islamique. La révolution que va apporter le prophète Mahomet, c'est vraiment le monothéisme. Pour le coup, il y a un monothéisme très radical qui va notamment rejeter, par exemple, la notion chrétienne d'un dieu trinitaire. Hein, il y a quelques allusions comme ça dans le Coran qui, visiblement, sont une polémique contre la conception chrétienne de la Trinité.
Oui, c'est ça qui est étonnant. Moi, je l'ai appris en vous recevant à Galée. Les gens aussi étaient étonnés d'entendre ça. Il y a Jésus, tout le monde ne le sait pas, hein, qui se retrouve effectivement dans le Coran. Marie aussi, Mariam, je crois, hein, qui est également, et d'ailleurs une sourate qui lui est dédiée dans le Coran. Mais par contre, Jésus n'est pas pour autant reconnu comme une divinité dans ce Coran. C'est un homme à part entière, c'est ça, ou quelque chose proche de cela ?
Oui, dans le Coran, Jésus est un prophète, un très grand prophète, hein, mais il n'est en aucune manière divin. Ça, c'est sûr, il n'est pas le fils de Dieu. Il est un prophète dans une lignée de prophètes qui va se terminer avec Mohammed. Et en fait, Jésus joue un rôle très important, surtout au début de l'islam, notamment dans l'eschatologie, c'est-à-dire les scénarios de la fin des temps. L'islam, en fait, reprend la notion chrétienne du retour de Jésus à la fin des temps. Et donc, dans la première eschatologie musulmane, eh bien, c'est Jésus qui est... ce n'est pas Mohammed, mais c'est bien Jésus qui revient et qui, ensuite, est censé entraîner l'humanité entière dans la conversion à l'islam, à la toute fin des temps. Mais par la suite, ça changera. Par la suite, on voit émerger une autre figure qu'on appelle le Mahdi et qui est, disons, l'envoyé attendu qui signale le début du scénario de la fin.
Mais en fait, il n'y a que dans la religion chrétienne alors que Dieu s'est incarné et est descendu sur terre.
Ah, tout à fait. C'est vraiment une spécificité du christianisme à laquelle résistent farouchement à la fois juifs et musulmans.
Et est-ce qu'on peut être messie sans être fils de Dieu ?
Ah, c'est une bonne question parce qu'en fait, la notion de messie, fils de Dieu, en réalité, elle est déjà en filigrane dans la Bible hébraïque. Le roi, le descendant de David... est déjà appelé fils de Dieu. Et ça, c'est une notion qu'on va trouver dans le Moyen-Orient ancien, en fait. Cette notion du roi comme fils de Dieu. Ce n'est pas une invention de la Bible hébraïque. Et en fait, c'est le fait d'appeler Jésus fils de Dieu, à l'origine, c'est tout simplement une appellation messianique. C'est tout simplement le fait de dire, cet homme est bien le Messie. Et en tant que Messie, il est le fils de Dieu. Et l'appellation fils de l'homme, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est aussi... en réalité une appellation messianique qui remonte au livre du prophète Daniel. Donc voilà, c'est un langage codé, si vous voulez. Et ça n'a rien à voir avec les élaborations théologiques dans l'Église quelques siècles plus tard sur les trois personnes, les relations du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint. Ça, ce sont des élaborations théologiques ultérieures. Mais à l'origine, le fait d'appeler Jésus fils de Dieu, C'est tout simplement une appellation messianique. C'est pour dire qu'il est le Messie attendu.
Qu'a-t-elle, si vous deviez, non pas en résumé, hein, mais un petit peu comme ça pour faire un panorama de ce qu'on vient de se dire et aller à peine un peu plus loin, en quelques mots, nous dire ce qui aujourd'hui, d'après vous, de manière simple, distingue ou rapproche ces trois grandes religions?
Alors, ce qui les rapproche, on va dire, on va commencer par ça. D'abord, elles sont toutes universelles. Même le judaïsme, qui est la religion d'un peuple en particulier, Israël, a une dimension universelle. Elles sont universelles parce que dans les trois, Dieu est un Dieu créateur qui crée toute l'humanité et qui, ultimement, se préoccupe du sort de toute l'humanité. Ce sont aussi trois religions où il y a un Dieu transcendant qui se révèle dans une parole. Alors ensuite, les formes que prend cette parole, les conceptions du livre, etc. varient, mais quand même, ça c'est aussi un point commun. Il y a un autre point commun tout à fait différent, c'est le souci des pauvres et les pratiques caritatives. C'est quelque chose de très central dans les trois religions monothéistes dont nous parlons. Et puis, un quatrième point commun, important à mes yeux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'eschatologie. Hein, l'idée de que le temps est linéaire, va vers une fin qui sera marquée par un jugement de Dieu, avec la question du salut aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très structurant dans les trois. Alors, dans le judaïsme, pas dès le départ, hein, ça va apparaître surtout à partir de l'époque hellénistique. Mais disons, voilà, depuis quand même le tournant de notre ère, ça existe dans le judaïsme et ça va être très très important en christianisme et en islam. Préoccupation du salut et...
Alors, au fil de l'histoire, donc on a vu comment plus ou moins étaient apparues ces trois religions monothéistes. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui ou dans deux, trois siècles peut arriver en disant « je suis le prophète, je suis le Messie » Est-ce qu'il peut y avoir la création d'une quatrième religion monothéiste dans les siècles à venir?
Tout à fait, parce qu'on l'a vu au cours de l'histoire. Il y a eu Mani au IIIe siècle de notre ère qui a créé le manichéisme. Et surtout, bien plus proche de nous, il y a eu le fondateur de la religion Bahaï au XIXe siècle en Iran. Hein, au milieu du XIXe siècle, s'est créée une nouvelle religion monothéiste, hein, le Bahaïsme, qui compte peut-être 7-8 millions d'adeptes aujourd'hui dans le monde. Hein.
Quand même. Hein,
oui, quand même. C'est pas une très grande religion monothéiste en nombre.
Ah non, mais impressionnant
c'est
quand même,
moins que le nombre de juifs. Mais néanmoins, voilà, c'est une religion très universelle qui prône l'unité de Dieu, l'unité de la religion et l'unité de l'humanité. Donc elle se présente un peu comme une sorte de dépassement de toutes les erreurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et comme un mouvement très, très pacifiste et qui contribuerait au salut ultime de l'humanité.
Merci Qu'a-t-elle Berthelot d'être intervenue dans ce Sapiens. On a appris beaucoup,
on l'aurait
beaucoup
bien
de
gardé
choses.
Plus longtemps, mais c'est compliqué. Oui. Merci beaucoup Qu'a-t-elle.
Merci.
Merci à vous.
Fabrice, à la semaine prochaine.
À bientôt. Allez en paix.
Ité du Chemin Est, si j'ose dire. Oui.